Donc, Ésaïe chapitre 23, prophétie sur Tyr et Sidon. En fait, on arrive à la fin d'un cycle, parce que ça fait depuis pas mal de temps que nous regardons ensemble Ésaïe. On ne fait pas petits morceaux, hein, parce que voilà, c'est long, hein, 66 chapitres. Et là, on est arrivé à la fin de ce cycle, et justement, on a vu Babylone, les Philistins, Moab, la Syrie, l'Éthiopie, l'Égypte, de nouveau Babylone et Jérusalem. Donc tout un cycle de prophéties sur les nations, sauf que Jérusalem vient se mettre dans la liste. Et donc aujourd'hui, on arrive à ce chapitre 23. Avec un chapitre en deux parties. La première partie, versets 1 à 14, c'est le jugement sur Tyr et Sidon. Et les versets 15 à 18, un aboutissement inattendu. Alors, on va lire les versets 1 à 14, mais avant, je vais quand même montrer cette petite carte sur les Phéniciens. Donc, Tyr et Sidon, ce sont les Phéniciens. Et donc, voilà, c'est la Méditerranée. Et les deux villes de Tyr et Sidon sont là. Donc, Jérusalem serait là. Voilà, on voit la mer Morte. Et ce sont deux villes et qui rayonnaient. Donc, on va voir dans ce chapitre, on parle de Chypre ou de Kittim, selon la traduction, et ils avaient plein de colonies un peu partout, Carthage par exemple, en Espagne, ça s'appelait Tarsis dans certaines traductions, et les Phéniciens étaient connus comme les grands commerçants, on va dire. Donc ils avaient beaucoup de bateaux, et ils s'étaient enrichis, parce que ils faisaient le transport de ces biens partout dans le bassin méditerranéen. Et c'est intéressant, parce que quand on revient à ce cycle de chapitres, nous voyons que certaines de ces nations, Babylone, les Philistins, Moab, etc., étaient connues pour leur force militaire. C'est leur façon de prendre de l'ascendance sur les autres. Donc c'était la force militaire. Et on arrive à la fin, et Tyr et Sidon, c'était pas la force militaire. Eux, c'était le Wall Street de l'époque, on va dire. C'est les finances. Et l'argent a son importance dans la vie, on va revenir à ça. Mais la Phénicie, donc Tyr et Sidon, symbolise cette puissance du commerce, de l'argent. Et on va réfléchir à cela ce matin en regardant ce texte. Donc je rappelle que Paul écrit aux Romains que toutes les choses de l'Ancien Testament ont été écrites pour notre instruction. Bien sûr, dans un premier temps, les choses étaient inscrites pour l'instruction du peuple d'Israël à l'époque. Hein. Mais nous pouvons toujours, nous aussi, tirer des leçons et on va essayer de le faire. Donc voilà, versets 1 à 14, je les lis. Message sur Tyr. Lamentez-vous, bateau l'encourier, car elle est violemment détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est de Kittim, donc la Chypre, que la nouvelle leur est parvenue. Soyez muets de terreur, habitants de l'île, et vous, marchands de Sidon, qui parcourez la mer pour la combler. Amenés à traverser les vastes eaux, les céréales de Chicor, les moissons permises par le Nil, donc en Égypte, constituaient son revenu. Il était le marché des nations. Mais sois couverte de honte, Sidon. En effet, voici ce que dit la mer, la forteresse de la mer. Je ne me suis pas tortillé de douleur, je n'ai pas accouché, je n'ai pas élevé de jeunes hommes, ni pris soin des jeunes filles. Mais quand les Égyptiens apprendront la nouvelle, ils trembleront comme pour Tyr. Traversez la mer jusqu'à Tarsis, jusqu'en Espagne. Lamentez-vous, habitants de l'île. Est-ce là votre ville joyeuse? Son origine était très ancienne, et ses pas l'amenaient à s'établir loin de chez elle. Oh, qui a pris cette décision contre Tyr? Elle qui distribuait les couronnes, elle dont les marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus importants de toute la terre. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, qui a pris cette décision pour briser l'orgueil de tous ceux qu'on honore, pour humilier tous ceux qu'on juge importants sur la terre. Parcours ton pays, comme le fait le Nil, fille de Tarsis. Il n'y a plus de limitation. L'Éternel a déployé sa puissance contre la mer. Il a fait trembler des royaumes. Il a donné l'ordre à l'intention de Canaan de démolir ses places fortes. Il a dit, tu ne continueras plus à te livrer à la joie, vierge violée, fille de Sidon. Tu auras beau te lever pour traverser jusqu'à Kittim, même là, il n'y aura pas de paix pour toi. Regarde le pays des Babyloniens, ce peuple qui n'en était pas un. Les Assyriens l'ont destiné aux habitants du désert. Ils ont érigé des tours pour en faire le siège, ont démoli ses palais, en ont fait une ruine. Lamentez-vous, bateau l'encourier, car votre lieu de refuge est détruit. Donc, Tyr, en fait, la ville de Tyr a été construite moitié sur la terre ferme et moitié sur une sorte de îlot juste en face. C'est pour ça qu'on parle d'île dans ce texte. Et à l'époque, comme je l'ai dit, c'était le plus grand centre du commerce de tout le monde antique, avec des colonies en Grèce, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne. Je ne sais pas l'époque, mais on voit même Marseille, donc comme une colonie phénicienne, sur la carte. Je ne sais pas si c'était à l'époque d'Ésaïe. Et ces villes de Tyr et Sidon ont été détruites à plusieurs reprises tout au long de l'histoire. Et on voit, on va pas regarder tous les versets dans le détail, mais par exemple au verset 5, on dit « Les Égyptiens apprendront la nouvelle donc de la disparition de Tyr et trembleront. » Parce qu'en fait, au verset 3, on parle des moissons permises par le Nil, donc il fallait écouler ce blé, écouler tous ces produits agricoles dans le monde méditerranéen à l'époque, et c'était Tyr qui s'en occupait. S'ils pouvaient plus écouler leurs biens, c'était comme un crash de Wall Street, comme j'ai dit en quelque sorte. La disparition de Tyr avait des conséquences économiques extraordinaires. Et c'est vrai, comme ce texte le dit, que Tyr est une ville très ancienne. Le verset 7 dit, son origine était très ancienne, et on a trouvé des traces jusqu'à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ pour la fondation de cette ville. Et puis, on pose une question au verset 8. Qui a pris la décision contre Tyr? Elle qui distribue les couronnes, elle dont les marchands étaient des princes et dont les commerçants étaient les plus importants de toute la terre. Distribue la couronne. Les couronnes, c'est certainement les hommes installés à la tête de toutes ces colonies, de tous ces comptoirs établis tout autour de la Méditerranée. Alors, qui a décidé d'arrêter tout ce commerce et pourquoi? Le verset 9 le dit. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, qui a pris cette décision. Donc, dans un sens, tout le déroulement de l'histoire, quand même sous le contrôle de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre, je pense, il n'y a aucun moyen de comprendre pourquoi il a permis certaines choses, ou il a fait en sorte que certaines choses se déroulent dans l'histoire. Et on peut voir des catastrophes, on peut voir des empires, on peut voir tout ça. C'était permis par Dieu, en partie pour que nous ne vivions pas dans l'anarchie, qui serait le pire de tout. Donc, on va même dire que les empires avec les dictatures, c'était mieux que l'anarchie. Mais après, ces dictatures, ces empires disparaissent pour être remplacés par d'autres. Tout ça, c'est Dieu qui mène l'histoire. Il a protégé son peuple pour que Jésus puisse naître comme Messie, dans ce peuple d'Israël. Et on va revenir à ça. Mais au verset 9, donc, c'est l'Éternel qui a décidé. Et pourquoi? Il a pris cette décision pour briser l'orgueil de ces gens-là, pour briser l'orgueil. Ils se croyaient forts. C'était pas la force de militaire, comme Babylone par exemple, mais c'était la force commercialiste. Et ils ont devenu orgueilleux. Mais il y a une suite assez inattendue, les derniers versets que l'on va lire. Un aboutissement inattendu. Je vais lire les versets 15 à 18. Ce jour-là, et pendant 70 ans, la durée de vie d'un roi, Tyr tombera dans l'oubli. Au bout de 70 ans, le sort de Tyr sera pareil à celui de la prostituée dont parle la chanson, prend une harpe, fait le tour de la ville, prostituée oubliée. Joue bien de ton instrument, chante sans cesse pour qu'on se souvienne de toi. Et au bout des 70 ans, l'Éternel interviendra pour Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera avec tous les royaumes du monde sur toute la surface de la terre. Mais ses revenus et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés, ni mis en réserve, car ses revenus permettront de fournir de la nourriture à satiété et des habits magnifiques à ceux qui habitent devant l'Éternel. Bon, c'est un peu étonnant. Et là, on va prendre quelques temps pour essayer de comprendre tout cela. Donc, d'abord, cette destruction de Tyr ne durera que 70 ans. On dit que c'est la vie d'un roi. On peut dire, selon le psaume 90, c'est la vie d'un homme. Hein. On dit à l'époque-là, 70 ans, c'était la vie d'un homme, 80 ans pour les plus forts, les plus vigoureux. Bon, c'était à l'époque. Donc 70 ans, et n'oublions pas non plus, chaque fois qu'on a le chiffre 7, que c'est le chiffre de la perfection, ça veut dire de la totalité. Ça veut dire que 70 ans, peut-être chiffre arrondi, mais c'est le moment où tout va se terminer et quelque chose d'autre va commencer. Et à ce moment-là, Esaïe imagine une sorte d'image. C'est l'image d'une vieille courtisane, d'une vieille prostituée qui prend sa harpe et fait le tour de la ville en essayant de jouer pour chercher malgré tout à avoir des clients. En quelque sorte. Hein. Bon, la Bible est très terre à terre hein, donc, avec tout cela. Donc, cette prostituée cherche des clients parce que, comme dit le texte, elle a été oubliée. Et Esaïe dit, bon, joue bien de ton instrument, chante sans cesse pour qu'on se souvienne de toi. Et en fait, ça veut dire que Tyr et Sidon vont chercher de nouveau à attirer une clientèle, maintenant que les villes sont rétablies. Ils vont essayer d'attirer une clientèle pour continuer leur commerce maritime. Et ça marche, ça marchait. Parce qu'au bout de 70 ans, l'Éternel interviendra et elle retournera à son salaire impur. Et bizarrement, il continue avec le même symbolisme de la prostitution. Elle se prostituera avec tous les royaumes du monde sur toute la surface de la terre. Parce que les relations vont être non pas une relation, on va dire, d'amour, comme un mari et une femme, entre Tyr et l'autre nation, mais une relation uniquement basée sur le fric, sur l'argent. Donc dans ce sens, une certaine prostitution quand l'argent prend le dessus et est à la base des relations. Donc, mais, et c'est là l'aboutissement inattendu, parce que Dieu dit, tout cet argent-là va lui revenir. Alors, il faut comprendre comment et pourquoi. Alors, on va regarder quelques autres versets dans Esaïe et puis dans l'Apocalypse. Dans Esaïe, chapitre 18 et le verset 7, déjà, par rapport aux Éthiopiens, Esaïe avait prophétisé que ce peuple, une grande force militaire, à ce moment-là, des offrandes sont apportées à l'Éternel, le maître de l'univers, par le peuple grand et glabre, par le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, par la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par les fleuves, elles sont apportées à l'endroit où réside le nom de l'Éternel, le maître de l'univers sous le mont Sion. Donc même les Éthiopiens vont apporter leur contribution au temple de Sion. Et puis Ésaïe le développe vers la fin de son livre, au chapitre 60. Il y a quelques versets, je vais les lire dans la totalité à partir du verset 5. En le voyant, tu rayonneras de joie. Il s'agit de la gloire future de Jérusalem. Ton cœur bondira et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers de Nebajot serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel. Je les accepterai, et j'illuminerai le temple de ma splendeur. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers? C'est que les îles placent leur attente en moi, et les bateaux l'ont courrier. Donc on a vu cette expression tout à l'heure, pour Tyr et Sidon. Sont en tête pour ramener tes enfants de loin. Ils apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé la splendeur. Des étrangers reconstruiront tes murailles, et le roi te serviront, car dans mon irritation je t'avais frappé, mais dans ma grâce j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes, et ne seront fermées, ni le jour, ni la nuit, pour laisser entrer chez toi les ressources des nations, ainsi que le roi en cortège. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront, et ces nations-là seront totalement ruinées. Donc, à la fois les personnes et les richesses du monde entier vont venir à Jérusalem. Et je propose, avant de faire quelques commentaires, de lire également dans Apocalypse 21, qui reprend ces prophéties d'Ésaïe. N'oublions pas que les deux tiers de l'Apocalypse, ce sont des citations ou des allusions à l'Ancien Testament. Apocalypse 21, versets 24 à 27. Les nations marcheront à sa lumière. Donc là, on parle de la nouvelle Jérusalem. C'est le contexte. Dans Ésaïe, c'était Jérusalem. Maintenant, on voit que c'est la nouvelle Jérusalem. Les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, si on essaie de mettre ensemble ce qu'on a vu sur Tyr et Sidon, sur les prophéties dans Ésaïe et puis dans l'Apocalypse, je crois que l'on peut dire ce que Ésaïe a vu comme étant la ville de Jérusalem, donc bien située là en Israël, que toutes ces prophéties vont concerner beaucoup plus l'éternité, avec la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, parce que finalement, tout cela ne peut s'accomplir que dans la nouvelle alliance. Parce que c'est à ce moment-là que les peuples de toute la terre vont venir. Ils vont se tourner vers le Seigneur, parce que dans la nouvelle alliance, ce n'est plus une alliance avec un seul peuple, le peuple d'Israël, mais avec la terre entière. Et ce que l'on envisage ici, mais bon, il y a des discussions autour de cela, c'est que dans cette nouvelle alliance, sur cette nouvelle terre, les exploits et les réalisations des hommes sur l'ancienne terre seront présentes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je mets un point d'interrogation. Mais au moment où le Seigneur va tout recréer, et que nous serons dans l'éternité, qu'est-ce qui va rester de la première terre? Je connais quelqu'un qui dit que le viaduc de Milo sera bien sur la nouvelle terre, parce qu'il y a une tellement belle réalisation. Moi, je n'en sais rien. Moi, je suis convaincu qu'on va pouvoir écouter Jean-Sébastien Bach. Ça, pour moi, ça fait pas de doute. Mais quelle est la continuité et le changement? Je suis enregistré, je n'affirme rien du tout, mais je pense qu'il y aura quand même une certaine continuité avec ce que l'on connaît sur la terre. Parce que on est créé avec un corps, on aura un nouveau corps, on sera donc sur cette nouvelle terre pour l'éternité. Et à ce moment-là, on dit que on apportera la gloire et l'honneur des nations. Mais, attention, il n'entre que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Parce que ceux qui seront là, ce sont les sauvés. Ceux qui seront sauvés par l'agneau, donc Jésus, et son sacrifice. Donc là, au moins, on peut être sûr. Le reste, on peut en discuter tant qu'on peut. Il y a plein de blagues là-dessus, hein, quelle langue on va parler pendant l'éternité. Donc c'était un congrès européen toute cette semaine et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'est le hongrois qu'on va parler pendant l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre, tellement c'est compliqué. Bon, enfin, ce sont des blagues. Mais il y aura certainement une certaine continuité par rapport à notre terre. Et c'est absolument extraordinaire que ce qui sert uniquement comme prostitution, donc tout est basé sur l'argent, sera beaucoup plus glorieux parce que l'argent ne sera pas au centre de tout cela. Alors, pour essayer de comprendre cela un petit peu, je propose avant de terminer de faire un détour dans le Nouveau Testament et de regarder à côté de Ésaïe 23, verset 9, 1 Timothée 6. Et les deux thèmes en commun entre ces deux textes, c'est le mot argent et le mot orgueil. Exactement comme dans ce chapitre d'Ésaïe 23. Alors on va lire aussi ces textes qui peuvent jeter une lumière supplémentaire sur tout cela. 1 Timothée 6, d'abord je vais lire les versets 5 à 10. Qu'il faut donc s'éloigner de discussions violentes entre les hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Et je reprends la lecture au verset 17. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, des bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Donc, il y a plein de choses sur l'argent ici, mais vous avez vu le mot argent, le mot orgueil, comme dans Ésaïe 23 et verset 9. Donc, quelques réflexions sur ce texte, parce qu'on a parlé de la puissance de l'argent, et ce texte nous aide à comprendre. D'abord, au verset 5, ceux qui pensent que la piété est source de profit. D'abord, qu'est-ce que la piété? Selon les différentes traductions de la Bible, on a des mots différents. La Bible en français courant dit attachement à Dieu. La version second 21, la véritable foi en Dieu. Et 1 Timothée 4 dit d'ailleurs, entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. C'est une vie centrée sur Dieu et de la relation avec lui. Donc ça, c'est ça qu'on veut. Mais ce n'est pas une source de profit financier. Je crois que cette doctrine, c'est une erreur fondamentale, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. On pense que puisqu'on est chrétien, on sera riche, on n'aura pas de problème de santé, tout marchera parfaitement. Bon, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais ce n'est pas l'expérience des chrétiens depuis 2000 ans. Et on peut être tout à fait fidèle et ne pas être riche, même si le Seigneur, je pense, honnêtement, s'occupe de nous et nous donne l'essentiel. Donc on prie, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et en préparant cela, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à la première fois que j'ai fêté Noël en France. J'étais venu comme prof et finalement c'est un moment où on peut commencer à créer notre propre église, une nouvelle église à Nancy. Et pourquoi je pense à ça? Parce qu'on avait si peu d'argent que je me souviens en discuter dans le couple pour dire, alors à Noël, qu'est-ce qu'on fait? Il faut choisir. On prend une entrée ou on prend un dessert? Parce qu'on n'avait pas l'argent pour les deux. Est-ce que le Seigneur s'était éloigné de nous? Mais pas du tout. Il nous a permis de survivre. Mais ça faisait partie d'une certaine fidélité, on n'est pas forcément riche. D'ailleurs, Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc, qui représente tout ce qui est richesse. Donc, on dit que quand même la piété est une grande source de profit. Quand on se contente de ce que l'on a. Donc le contentement de ce que l'on a, je sais que j'ai déjà cité saint Augustin, moi je trouvais une petite phrase très intéressante, quand il a dit que le bonheur c'est de désirer ce que l'on possède déjà. Je trouve que c'est vraiment sage, et donc d'être content de ce que l'on a, et donc de remercier le Seigneur pour ce que l'on a déjà. Et on peut se contenter de cela, parce que comme l'apôtre dit avec... raison, nous n'apportons rien dans le monde, donc je pense, à moins que je me trompe, que Adeline est née toute nue, on n'a rien apporté dans le monde, il n'avait rien du tout, et quand on part du monde, on n'apporte rien avec nous, hein, donc que notre propre personne. C'est pour cela que le texte dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Ou comme certains l'affirment, et je crois personnellement que c'est juste, c'est la nourriture et le toit et les vêtements. Parce que le texte dit, en fait, en grec, si nous avons de quoi se couvrir et la nourriture, donc ça suffit. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure dans ma phrase. Si nous avons la nourriture et de quoi se couvrir, cela nous suffira. Donc, ça veut dire vêtements et toit. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mais, si on veut s'enrichir, on tombe dans la tentation, le verset 9, et c'est un piège. Et ça provoque la ruine, c'est donc, il y a deux conséquences, ça provoque maux et souffrance, parce que la racine, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et deuxièmement, deuxième conséquence, on risque de se détourner de Dieu, parce qu'on place davantage sa confiance en Dieu, en l'argent qu'en Dieu. Je pense qu'il est toujours important de dire ceci. L'argent, la Bible ne dit jamais que nous n'avons pas besoin. Bien sûr. L'argent est un moyen d'échange entre les gens. On travaille, on vous donne de l'argent à cause de votre travail. Cet argent-là, vous pouvez l'utiliser pour acheter de quoi se nourrir, etc. Donc c'est un moyen d'échange. Parce qu'en fait, ce n'est pas la personne qui vous paie à la fin du mois qui va vous donner la nourriture. Donc c'est un moyen de paiement, un moyen d'échange. Tant qu'on en reste là, il n'y a pas de problème. Le problème, et c'est là bien dit au verset 17, c'est de dire aux riches de ce monde de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Parce que la richesse devient comme un autre Dieu, on met sa confiance là plutôt qu'en Dieu. Et on devient orgueilleux. Les plus riches vont se croire au-dessus des autres, et c'est ça le problème avec l'amour de l'argent. À ce moment-là, on dépasse le simple échange, la notion d'échange, pour que l'argent que l'on possède soit la garantie, en quelque sorte, d'une bonne vie. Seulement, Paul le dit, et on le sait tous, les richesses sont incertaines. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des crashs, il peut y avoir de problèmes de santé, on peut avoir d'autres choses, et l'argent ne donne pas la réponse à tout ça. Même si, et le verset 17 n'est pas du tout négatif, Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Il y a rien, il n'y a pas de problème. On n'est pas des ascètes, on n'est pas un meilleur chrétien parce qu'on ne possède rien du tout. On a été à l'exposition il y a quelques mois sur les chrétiens d'Orient, et donc il y avait toute une salle sur quelqu'un qui, pendant, je sais pas, plusieurs dizaines d'années, vivait sur un pilier dans le désert, et on lui donnait juste assez pour manger, en quelque sorte. C'est ce ascétisme-là qui était devenu pour certains le modèle de la vraie vie chrétienne, alors que il n'y a rien dans la Bible qui dit ça. Donc Dieu nous donne tout pour que nous en jouissions. Mais il faut aussi se dire que souvent ce tout n'a pas de prix. Donc et si on regarde, si on pense à ce qui nous donne le plus de plaisir, souvent ce sont des petites choses de la vie que l'on voit. Pour moi, je suis toujours émerveillé. Il y a un petit événement qui s'est passé depuis quelques jours, le retour des martinets qui volent dans le ciel. Chaque année, je guette ce jour-là. Qu'est-ce que j'aime ces oiseaux-là, qui crient, crient strident alors qu'ils sont libres. Ben, c'est un plaisir de les regarder. Et Dieu les a mis dans le monde pour ça, quelque part. Donc, faisons attention de ne pas aimer l'argent, ni d'être orgueilleux, parce qu'on a de l'argent. Au contraire, les deux consignes qui sont données, c'est de placer sa confiance en Dieu et le bon usage de ses biens matériels. Ordonne donc aux riches de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Donc, dans la communauté chrétienne, et puis au-delà, il y a un certain sens de partage de nos biens, qui est tout le contraire d'en faire, de sacraliser l'argent, d'en faire un idole. Mais pour terminer, j'aimerais revenir à Ésaïe et ses chapitres 13 à 23. Donc, tout ce cycle sur Babylone, les Philistins, Moab, la Syrie, l'Éthiopie, l'Égypte, etc. Pourquoi ce cycle? Pourquoi? Fondamentalement, maintenant qu'on termine la fin de ce cycle, on peut le dire, c'est pour dire au peuple d'Israël, ce n'est pas la peine de s'allier avec ces nations-là. Elles semblent fortes, elles semblent bien s'en sortir, mais attention, elles seront jugées. Et dans le cycle de la vie, ces nations risquent aussi de connaître beaucoup de malheurs, même de disparaître. Donc, peuple d'Israël, ne vous alliez pas à ces nations-là. Au contraire, la vocation d'Israël, c'est de révéler Dieu aux nations et d'être le berceau du Messie, du Sauveur du monde qui devait naître, bon, quelques centaines d'années plus tard. Ce qui fait que le message en filigrane de ces chapitres, c'est Il faut faire confiance à Dieu. C'est ça le message. Tout comme on l'a vu dans Timothée, on fait confiance à Dieu, et ça c'est une thématique qui traverse les Écritures. Faire confiance à Dieu parce que seul lui est digne de confiance. Je vais prier. Merci Seigneur parce que tu es digne de confiance et chacun de nous, chaque jour, est amené à faire le choix entre se débrouiller par ses propres moyens ou à te faire confiance. Et pourtant, nous ne voulons pas nous priver de ta protection. Nous ne voulons pas nous priver de tout ce que tu veux nous donner. Et nous voulons te faire confiance. Seigneur, aide-nous dans les petites choses comme les grandes choses à nous tourner vers toi, à nous laisser guider par toi, à renoncer à essayer de manipuler l'histoire par nos propres efforts. Il est vrai, Seigneur, que tu nous as donné un cerveau et les moyens de réfléchir. Nous ne voulons pas mettre cela, remettre ça en question. Mais, Seigneur, aide-nous vraiment à nous confier en toi, à te faire confiance en toutes choses. Tout comme Israël devait l'apprendre, et très souvent, comme on a vu le mercredi soir, les rois ne te faisaient pas confiance. Parfois, un roi commençait l'affaire, il terminait mal sa vie. Seigneur, empêche-nous de mal terminer notre vie, mais de poursuivre avec une confiance absolue en toi, parce que tu nous connais de fond en comble. Tu connais notre histoire, tu connais toute l'histoire du monde, tu sais ce qui est de mieux pour nous. Et c'est une grâce que nous te demandons aujourd'hui, ce matin, Seigneur. Aide-nous vraiment à te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen.